Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Alors, Ésaïe 35, versets 4 et 5. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Le deuxième texte est dans Marc 10, les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Le troisième texte, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Jusqu'ici dans la parole de Dieu.
Ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est que des personnes qui ne voient pas avec leurs yeux peuvent voir avec leur cœur. C'est impressionnant quand même. Et en fait, c'est ce que nous demandons ce matin, à ce que l'Esprit de Dieu agisse dans nos cœurs, et quelle que soit votre acuité visuelle ou vos défauts de vision, eh bien vous puissiez avoir un cœur qui voit clairement par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, dans ce journal de Pierre écrit par Marc, nous allons rencontrer la seule personne guérie de laquelle Pierre se souvient de son nom. Il s'agit de Bartimée, le fils de celui qui honore. C'est la signification de son nom. Il est aveugle, mais il semble voir avec le cœur ce que les autres ne voient pas. Il donne un titre à Jésus que Marc n'avait pas dit jusqu'à maintenant. Un titre que toute la foule va retenir et proclamer quelque temps plus tard. Ça peut être le lendemain, c'est dans ces jours-là en tout cas. Alors pour bien situer le récit, nous allons commencer par parler de Jéricho, le lieu du miracle, ce sera notre premier point. Et ensuite, nous nous attarderons sur les 7 actions de Bartimée. Bartimée a fait 7 choses ici. Et nous terminerons par parler des 3 étapes de Jésus pour guérir Bartimée. Voilà donc le menu du jour. Alors commençons par l'arrivée à Jéricho. Alors c'est toujours bien d'avoir vos Bibles ouvertes dans Marc 10. Comme ça on va relire un peu ces textes pour les avoir en tête. Alors verset 46 il est dit, « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. » Alors pour ceux qui ont déjà lu les 4 évangiles, ils se rendront compte que Matthieu et Luc parlent aussi de ce qui s'est passé à Jéricho, la première étape de Jésus pour entrer dans la dernière semaine de sa vie. Matthieu comme Marc disent que c'est à la sortie de Jéricho que l'affaire se passe. Matthieu, comme Marc, disent que c'est à la sortie de Jéricho que l'affaire se passe. Alors que Luc dit que c'est lorsqu'il s'approchait de Jéricho que ce récit se passe. Comment l'expliquer? Ouh, une contradiction qui montre que la Bible est fausse, c'est ce que certains disent.
Non.
Une contradiction nous pousse à réfléchir. Pourquoi? Et plusieurs explications étaient avancées hein, par rapport à pour résoudre cette situation. Je vais vous en présenter deux qui me semblent les plus plausibles. La première possibilité, c'est de voir Bartimée qui est à la porte de la ville et Jésus y entre entouré d'une foule. Et Bartimée demande qui passe et il appelle Jésus qui à ce moment-là ne l'entend pas. Hein, quand il entre dans la ville, hein, à ce moment-là. Et Luc nous parle de cette partie-là. Et quand Jésus ensuite ressort de la ville, eh bien Bartimée, qui l'attend à sa sortie, hein, et dès qu'il sait que c'est lui, se met à crier. Et il crie de toutes ses forces pour être entendu. Et Matthieu et Marc ne parlent en fait que de la sortie où Jésus aura entendu Bartimée et l'a guéri. Alors que Luc parle des deux parties et n'en font qu'un. Donc ça, c'est une façon de comprendre la chose qui permet de dire, c'est pas de souci. Il y a une deuxième possibilité de voir la chose, c'est qu'il existait à l'époque une ancienne et une nouvelle Jéricho. L'ancienne Jéricho, ça vous dit quelque chose, Jéricho? L'entrée dans la terre promise, les murs qui sont tombés, etc. Donc l'ancienne Jéricho, qui était habitée quand même par certaines personnes, et la nouvelle Jéricho, qui était donc construite un tout petit peu à côté. Et en fait, Bartimée se retrouverait entre les deux. Et Marc et Matthieu, qui s'expriment d'un point de vue juif, quand ils parlent de Jéricho, pour eux, c'est l'ancienne Jéricho. Voilà pourquoi on est à la sortie de Jéricho. Alors que Luc, qui s'exprime plus de manière... d'un point de vue païen, hein, verra la Jéricho moderne comme étant la ville de Jéricho. Et donc, c'est à l'entrée de Jéricho que ce miracle se passera et où ensuite Jésus rencontrera Zachée dans la ville. Alors, laquelle de ces deux hypothèses qui explique la différence entre les évangiles est juste? Est-ce que c'est Bartimée qui entend parler de Jésus quand il entre dans la ville, puis ensuite quand il sort, il l'appelle, hein? Ou est-ce que c'est entre ces deux villes, dans le sens l'ancienne et la nouvelle, je ne peux pas vous dire. Mais les deux nous permettent de voir que la Bible ne se contredit pas. Hein? Et nous pouvons apprendre trois choses ici de cette situation-là. La première, c'est qu'il n'y a pas de contradiction de mensonge dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction de mensonge dans la Bible. Et nous pouvons chercher les hypothèses plausibles bibliquement pour expliquer ce qui semble étonnant ou contradictoire au premier abord. Donc ça, c'est un élément de base, il n'y a pas de contradiction, et là on peut simplement chercher des hypothèses, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dites pour essayer de comprendre. Première chose. Deuxième chose, les hypothèses expliquant les parties de récit ne se trouvant pas dans la Bible restent des hypothèses. Si vous venez me dire maintenant, dans la Bible c'est écrit que Bartimée était entre l'ancienne et la nouvelle Jéricho, là je vous dis non, c'est une explication qui nous permet de comprendre ça. Et cela encore pu même se dérouler autrement. Mais de manière à ce que ça corresponde au texte, évidemment. Et restons toujours ouverts pour des hypothèses, même différentes, tant qu'elles ne contredisent pas le texte biblique. Ça, c'est un élément important à saisir. Et troisième élément, parce que là, on peut se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Il manque des choses. Eh bien, troisième élément important, c'est que Dieu nous a donné tous les éléments nécessaires dans le récit des évangiles pour comprendre l'enseignement que Jésus nous a donné. Il nous a donné tout ce qu'on avait besoin, il ne manque rien. Dieu nous a donné tous les éléments nécessaires dans le récit des évangiles pour comprendre l'enseignement que Jésus a donné et la manière dont il a vécu. Il ne manque aucun détail qui nous serait indispensable pour mieux connaître Jésus-Christ. Il ne manque aucun détail. Ça, c'est un élément important. Ce qui peut être vu comme contradiction est généralement une preuve de témoignage indépendant. C'est des témoignages indépendants et chacun parle des détails selon sa perspective ou selon la perspective des témoins interrogés. Voilà pourquoi il y a ces différences dans les textes. Par exemple, un autre exemple, dans ce même texte, Luc et Marc ne parlent que d'un seul aveugle, alors que Matthieu parle de deux aveugles. En fait, ils ont les trois raisons. Marc se concentre sur Bartimée, Luc indique la guérison d'un aveugle, ce qui signifie pas qu'il n'y en avait pas d'autres. Et Matthieu, lui, il aime les chiffres. Il était collecteur d'impôts, donc il compte. Et donc, s'il y en avait deux, il va dire qu'il y en avait deux. Mais ils ont tous les trois raisons. L'importance est que la vue a été redonnée et qu'une ou deux personnes en ont bénéficié à ce moment-là. et c'est bien plus important pour l'enseignement qu'on en a à retirer. Voilà, donc ces détails parfois gênants pour certains lecteurs, maintenant résolus, réfléchissons quelques instants à la ville de Jéricho. Cette ville est aussi appelée la ville des palmiers, et c'est une ville symbolique, car elle était en fait le point d'entrée dans le pays promis. Et c'est de cette ville que le peuple avait fait le tour de la ville, hein. Vous vous souvenez là, pendant 6 jours, ils ont une fois le tour, puis le 7e jour, 7 fois, voilà. Et les murailles sont tombées, c'était la porte d'entrée dans le pays de la promesse. Et Jésus y passe pour entrer dans sa dernière semaine de vie qui aboutira à la résurrection. On pourrait dire c'est la porte du pays de la promesse éternelle. Jésus y était déjà passé à plusieurs reprises, car c'était la route habituelle que les Juifs prenaient pour éviter la Samarie. Ils allaient de l'autre côté du Jourdain, ils redescendaient, ils montaient par Jéricho, puis ils montaient ensuite à Jérusalem en passant par Béthanie et Bethesda. Elle avait été construite du temps du roi Akab, un contemporain d'Élie. Il y avait Élie du temps d'Akab et son successeur. Justement, Jéricho rappelle aussi le prophète Élisée, car c'est là qu'il est vu pour la dernière fois avec Élie avant son enlèvement. Avant qu'Élie soit enlevé, c'est la dernière fois que des gens ont vu Élie et Élisée ensemble, c'était à Jéricho. Et ensuite, c'est là que lorsque Élisée revient tout seul, il traverse le Jourdain juste vers Jéricho et il entre dans Jéricho. C'est à ce moment-là qu'Élie fait son premier miracle pour passer le Jourdain. Et ensuite, à Jéricho, il va rendre l'eau potable, hein, Élisée, à l'époque. Élisée est un type de Jésus-Christ. Il annonce Jésus-Christ, déjà à son époque. Et Jéricho est un lieu symbolique aussi pour Élisée. Jéricho est mentionné aussi dans les paroles de Jésus. Vous souvenez quand c'est que Jésus parle de Jéricho ? Il y avait un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho, ou de Jéricho à Jérusalem, je ne sais plus. Et c'est donc un homme qui s'est fait attaquer, et puis il y a des personnes qui passent, il y a un Samaritain qui prend soin de lui. Il y a la parabole du bon Samaritain. Et c'est à Jéricho, dans les mêmes jours où Jésus a rencontré Bartimée, que Jésus rencontre le collecteur d'impôts, Zachée, qui est touché par sa grâce et manifeste sa repentance par le remboursement de ses vols. Donc Jéricho est un lieu chargé d'histoire. Hein, et la guérison de Bartimée en ce lieu ne fera qu'augmenter ce symbole. Donc quand on dit Jéricho maintenant, après cette prédication, je l'espère, Bartimée devrait venir à notre esprit aussi. Est-ce que vous connaissez des lieux historiques où il n'est pas possible d'aller sans penser aux événements du passé? Par exemple, si vous avez la moindre idée de l'histoire suisse, vous ne pourrez pas aller à la prairie du Grütli sans penser à quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, à des personnes qui se sont retrouvées, qui ont fait un pacte, enfin, etc. Des lieux chargés d'histoire. Et pour les Israélites, évoquer Jéricho fait automatiquement penser à l'entrée dans le pays promis. C'est automatique. Jéricho, entrée dans le pays promis, et pour plusieurs qui ont peut-être une bonne connaissance de l'histoire, eh bien, vont penser aussi à Élisée. Donc, à quoi le lieu de Golgotha vous fait-il penser ? À quoi le lieu de Cana vous fait-il penser ? À quoi Gethsémané vous fait-il penser ? En fait, Dieu nous donne la grâce de fixer des souvenirs concernant notre Seigneur avec des lieux. Donc voilà une idée, à midi, si vous ne savez pas quoi dire entre vous, de simplement évoquer des lieux pour voir quels sont les souvenirs qui sont derrière ces lieux. Et si on peut prendre plein de lieux dans les évangiles, on dit un lieu, puis on essaie de se souvenir de ce qui s'est passé dans ce lieu, de ce que cela nous parle. Et peut-être que, comme j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, la guérison de l'aveugle de Bartimée sera liée à la porte de Jéricho dans notre esprit. Alors justement, parlons maintenant des 7 actions de Bartimée. Les 7 actions de Bartimée. Je vais relire le texte dans Marc 10, 46 à 52, donc vous pouvez déjà essayer de les repérer, et nous allons ensuite en parler. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva de bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre l'a vu. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Bartimée est la seule personne que Jésus a guérie dont Marc donne le nom. Pourquoi ? Ben, ce nom a marqué Pierre. Peut-être c'est ce nom qui l'a marqué. Un nom... Je pense à autre chose. C'est plus vraisemblable que Bartimée, en se mettant à suivre Jésus, s'est lié aux disciples et a fait partie de la première église. Et ainsi, Pierre le connaît. Il le connaît bien et permet à chacun de savoir comment cet homme, qui était un mendiant aveugle au bord du chemin, est venu à Jésus-Christ. Et voici les 7 actions de Bartimée. Je ne sais pas si vous les avez vues, donc je vais vous les donner. Puis ensuite, on va prendre un court développement pour chacun. Donc, premièrement, il entend. Deuxièmement, il se met à crier. Troisièmement, il jette son manteau. Quatrièmement, il se lève d'un bond. Cinquièmement, il vient vers Jésus. Sixièmement, il exprime sa demande. Et septièmement, il se met à suivre Jésus. Voilà les 7 actions de Bartimée. Donc, reprenons. Bartimée entend. Alors, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà vu Jésus ? L'avez-vous vu sur terre avant qu'il soit mis en croix? Comme ça, je suis sûr de la réponse. Non. Nous sommes dans la même situation que Bartimée. Nos yeux n'ont pas pu voir les actions de Jésus. Bartimée aussi n'a rien vu. Il est aveugle. Nous sommes dans la même situation que Bartimée. Nos yeux n'ont pas pu voir les actions de Jésus, mais nous en entendons parler. Comme Bartimée. Nous en entendons parler. Pour lui, c'est parce qu'il est aveugle. Pour nous, c'est parce que cela s'est passé à une autre époque. Mais Bartimée a entendu parler de Jésus de Nazareth. Il a écouté ce qu'on lui a dit. Il a mis tout cela dans sa mémoire. Et lorsque Jésus arrive, il va réagir. Pour croire en Jésus-Christ, nous avons besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, par Paul, souligne dans Romains 10, au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler sans prédicateur ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors aujourd'hui, today, maintenant, hein, comme chaque dimanche ici, vous entendez parler de Jésus. Et gardons cela en mémoire, afin de réagir lorsqu'il passera près de nous. Et justement, la deuxième action, c'est que Bartimée se met à crier. Alors, Bartimée est conscient que Jésus doit l'entendre s'il veut l'approcher, pour lui demander de le guérir. Donc, Bartimée a sûrement entendu parler que Jésus guérissait les malades, qu'il faisait voir les aveugles. Il s'est dit, mais c'est le Messie qui fait cela. C'est écrit dans Isaïe. On a lu un texte dans Isaïe 35 tout à l'heure, mais vous pouvez aller dans Isaïe 29, dans Isaïe 42, enfin, etc., dans bien des endroits. Et le Messie, c'est un descendant de David, selon la promesse de 1 Samuel 7. Alors, donc il réfléchit, hein. Et alors, il se met à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Et que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre et il entre dans la gloire. Non, les gens lui font des reproches et lui disent de se taire. Arrête Bartimée, tu nous ennuies, tu fais du bruit, tu déranges le maître. Une foule de personnes est entre lui et Jésus. C'est décourageant, non? C'est décourageant. Si Jésus n'a pas entendu, alors que ça veut dire que c'est pas pour lui. Il a appelé, alors que la volonté de Dieu soit faite. N'insistons pas, les difficultés sont trop grandes et on ne sait même pas si Jésus va répondre. Est-ce que c'est ce que pense Bartimée? Mais non! Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il crie plus fort. « Fils de David! Aie pitié de moi !» Bon, je vais pas le faire un cran dessus, on pourrait encore le faire, mais comprenez. Rien ne l'arrête. Il veut voir Jésus. Et il a rien à perdre. Il sait dans quelle situation de misère il est. Jésus est son espoir. Il veut le voir. Tu veux m'arrêter? Je crie plus fort. Je veux le voir. Mais quel exemple ! Quel exemple, notre Bartimée ! Même une foule qui lui fait des reproches ne le retient pas. Il veut arriver à Jésus. Même une foule ! C'est pas juste deux, trois personnes, mes chers frères et sœurs. C'est une foule de personnes. Alors, c'est pas parce que tout le monde voulait suivre Jésus et qu'ils étaient... C'est simplement que c'était le temps de la Pâque et tout le monde allait à Jérusalem. Donc voilà, c'était la grande foule. Même une foule qui lui fait des reproches ne le retient pas. Il veut arriver à Jésus. Comme Bartimée, n'hésitons pas à insister, à crier pour atteindre Jésus. Il ne rejettera pas celui qui vient à lui en plaçant son espoir en lui. Jamais. Troisièmement, que fait Bartimée ? Bartimée jette son manteau. Alors, il ne regarde pas à ses affaires. Il est prêt à tout abandonner pour aller vers Jésus. Alors, il faut savoir que les aveugles n'étaient généralement pas riches à l'époque et que le manteau pouvait représenter vraiment beaucoup pour un mendiant. Ce n'était pas seulement un par-dessus qu'il mettait pour faire joli. Non, c'était aussi parfois sa maison. C'était son moyen de garder ou de se protéger de la chaleur. C'était un bien très important. Mais Bartimée ne s'attache pas à son matériel. Il veut aller vers Jésus. Et si quelque chose le retient pour l'en empêcher, eh bien il le jette, non pas par mépris du matériel, faut pas mal comprendre, mais par priorité. En fait, il veut aller vers Jésus. Or si son manteau l'en empêche, eh bien il le laisse pour aller vers Jésus. Pour venir à Jésus, nous devons laisser notre manteau de propre suffisance, celui de notre propre justice, nous séparer du manteau du contrôle de la situation. Là, c'est un manteau qu'on aime vraiment garder. On veut contrôler la situation. Je vous assure que Bartimée, en allant vers Jésus, il ne contrôlait plus rien. Pourquoi ? Parce que c'est à Jésus qu'il a donné le gouvernail, si vous voulez, à ce moment-là. C'est à Jésus que nous devons donner le gouvernail. Quel est le manteau qui vous retient d'aller vers Jésus ? Que fait Bartimée encore ? Quand on lui dit qu'il peut aller vers Jésus, Bartimée, il est assis. Ça, il est assis. Bon, je ne peux pas le faire ici derrière, vous ne me voyez plus. Mais Bartimée, il est assis. Qu'est-ce qu'il fait quand on lui dit ? Hop, d'un bond, hop, il va vers Jésus. D'un bond, tout de suite. Comme un ressort, pouf, il y va. Il ne prend pas le temps de réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà réfléchi pendant des jours, des semaines. C'est plus le moment d'hésiter, il l'appelle. Ping, il y va. Vous voyez ?
Vous savez, quand le réveil sonne le matin, celui qui hésite à se lever est souvent repris par le sommeil.
Vous êtes d'accord ou bien ? Quand le réveil le matin sonne, celui qui hésite à se lever est souvent repris dans le sommeil. Bartimée ne veut pas retomber dans sa misère. Dès que le réveil de l'appel de Jésus retentit, il se lève d'un bond et va vers lui. Bartimée ne veut pas retomber dans sa misère ou rester dans sa misère. Dès que le réveil de l'appel de Jésus retentit, il se lève d'un bond et va vers lui. Et c'est justement cette action que nous observons. Ensuite, Bartimée vient vers Jésus. Bartimée va nulle part ailleurs. Et il ne va pas dire à sa fille, « Hey, il m'a appelé les amis, c'est trop sympa !» Non, il va vers Jésus. Il vient vers celui qui l'a appelé, qui l'a entendu, qui s'intéresse à lui. Bartimée ne veut aller vers personne d'autre. C'est Jésus qui signifie Dieu sauve, qu'il veut voir. C'est lui qui l'appelle fils de David et qui l'a entendu. C'est de lui qu'il a entendu parler. Bartimée est focalisé sur Jésus. Il est focalisé sur Jésus. Le sommes-nous aussi ? La sixième chose que Bartimée va faire, c'est qu'il va exprimer sa demande. Jésus pose la question à Bartimée. « Que veux-tu que je fasse ?» Ah, il y a un mois, on a entendu la même question dans le texte de Marc. Vous vous souvenez ? C'était quand Jacques et Jean sont venus vers Jésus. Ils lui ont dit « Jésus, tu vas faire tout ce qu'on te demande, s'il te plaît. T'es prêt ?» Puis là, Jésus, il a dit « Que voulez-vous que je fasse ?» La même question. Par contre, ici, Bartimée ne vient pas en disant à Jésus qu'il devrait faire ce qu'il demande. Il vient vers Jésus convaincu qu'il peut le guérir. Alors, lorsque Jésus lui demande ce qu'il veut, Bartimée va humblement dire « Rabouni », ce qui veut dire « maître », que je recouvre la vue. La demande de Bartimée est claire, elle est simple, elle est directe, elle est en lien avec ses besoins et sans arrière-pensée.
La demande de Bartimée est claire, elle est simple, elle est directe, elle est en lien avec ses besoins et sans arrière-pensée. Son cœur voit déjà Jésus. Ses yeux ne le voient pas encore, mais son cœur le voit déjà. À qui il fait confiance? Il est conduit par ce que l'on appelle la foi. C'est la foi qui a conduit Bartimée à répondre à Jésus cela. Il ne voit pas, il désire voir. Exactement ce que nous sommes aussi appelés à demander à Jésus, afin de voir ce qui est bon selon Dieu, ce qui est juste selon la parole, ce qui est vrai. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie, mais parfois on est là, on a l'impression de rien voir. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas dans quel... On est aveugle en fait. Mais pourquoi ne pas aller vers Jésus alors? Qui va nous poser la même question? Que veux-tu que je fasse? Pourquoi ne pas répondre comme Bartimée? Mais Rabouni, ben que je recouvre la vue. Nos demandes envers Dieu sont-elles claires, simples, directes, en lien avec nos besoins et sans arrière-pensée? Et la dernière action de Bartimée ici est tout simplement magnifique. Bartimée se met à suivre Jésus. Bartimée, en fait, pourrait profiter de la vue retrouvée pour aller observer le magnifique panorama au bord de la mer Morte. Il pourrait courir dans les montagnes, aller voir la flore et la faune, aller jusqu'à la Méditerranée, voir cette mer qu'il n'a jamais vue, hein, découvrir le monde, adorer Mère Gaïa si vous voulez. Non, Bartimée ne se trompe pas de Dieu. Bartimée pourrait aussi retourner à la maison, où il aurait enfin une place. Il pourrait chercher un travail, pour enfin gagner de l'argent. Il pourrait chercher une épouse, pour enfin avoir une descendance. Bartimée a sûrement fait tout cela. Mais pas tout de suite. D'abord, il se met à suivre Jésus sur le chemin. Et j'aime penser que Bartimée a suivi Jésus jusqu'à la fin de sa vie, donc la vie de Bartimée. Mais c'était non plus physiquement par la suite, mais en fait qu'il a suivi son enseignement et son modèle. Et pour tous ceux parmi nous qui avons été sauvés, guéris par Jésus de nos péchés et de la mort éternelle, suivons-nous Jésus? Vous savez, celui qui dit être chrétien est quelqu'un qui suit Jésus. Et quelqu'un qui suit ses enseignements, qui suit son exemple, qui suit ceux qui le suivent. Un chrétien, c'est un suiveur. En fait, c'est un disciple de Jésus-Christ. Pour Bartimée, suivre Jésus, c'est l'écouter, c'est chercher à appliquer ce qu'il dit. Ça, c'est ce qui vient ensuite. Ici, suivre Jésus, c'est simplement le suivre sur le chemin. Regardons maintenant les trois étapes que Jésus a accomplies pour guérir Bartimée. Alors, je vais relire le texte et vous allez essayer de découvrir ces trois étapes. Alors maintenant, il y a des choses qui vont déjà un petit peu plus vous sauter aux yeux parce qu'on a déjà un petit peu étudié les sept actions. Hein. Mais voici. Donc, je recommence au verset 47. On parle de Bartimée. Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui dit l'aveugle « Que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé !» Aussitôt, il recouvra la vue, se mit à suivre Jésus sur le chemin. Trois étapes. La première étape, c'est que Jésus s'arrête et demande d'appeler l'aveugle. Ça, c'est la première étape. Jésus s'arrête et demande d'appeler l'aveugle. Deuxième étape, Jésus demande à l'aveugle ce qu'il désire. Et troisième étape, Jésus lui annonce la bonne nouvelle de sa guérison ou de son salut. Donc, regardons rapidement ces trois étapes. La première, Jésus s'arrête et demande d'appeler l'aveugle. Jésus est en route pour Jérusalem, hein, comme beaucoup de pèlerins qui vont pour la Pâque. Comme j'ai dit, c'est la raison pour laquelle il y a une foule aux côtés de Jésus. Mais même si les disciples souhaitent cela, Jésus n'est pas dans une marche triomphale pour aller à Jérusalem, en cherchant tous des partisans sur son passage pour arriver glorieux et régner face aux Romains à Jérusalem. Non, il n'a pas cette attitude. Et il s'arrête quand il entend un cri de détresse. S'il était dans l'idée de régner, etc., les cris de détresse, bon ben, pourra par la suite, quand je régnerai. Non, Jésus s'arrête là à ce moment-là, quand il entend un cri de détresse. Et la première étape de Jésus pour guérir Bartimée, c'est de s'arrêter. Et c'est ce qu'il fait pour tous ceux qui s'adressent à lui. Il s'arrête, prend du temps. Jésus demande d'appeler Bartimée. Ça, c'est très intéressant ici. Jésus, il entend une voix, puis il dit « Oh, toi là-bas qui m'appelles, viens !» Non. Vous avez vu ce qu'il fait ? Jésus demande à ce que des personnes l'appellent. Mais encore aujourd'hui, Jésus nous demande d'appeler ceux qui ont besoin de le rencontrer. Ça continue en fait. La première étape de la guérison de Bartimée est que Jésus s'arrête et le fait appeler. Il l'invite à venir. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que Jésus demande à l'aveugle ce qu'il désire. Alors comme nous l'avons vu, Bartimée, tel un ressort, arrive vers lui et il doit se faire aider. Il est aveugle, hein. Des fois, on croit qu'il se lève et puis voir Jésus tout tranquillement. Mais il est aveugle, il voit rien. Donc, il tâtonne, il doit se faire aider, etc. Hein? Il vient jusque vers Jésus. Et là, Jésus lui pose une question quelque part exceptionnelle. Il est aveugle. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus, il se rend pas compte qu'il est aveugle et qu'il aimerait voir. Est-ce qu'il voit pas qu'il aimerait voir? Mais oui, Jésus le sait. Mais il veut engager Bartimée. Il veut que Bartimée ne vive pas ce moment de manière inactive, détachée, mais de manière responsable, exprimant lui-même ce dont il a besoin et ce qu'il désire. C'est exactement ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Bien sûr qu'il sait ce qu'on a besoin, mais il veut qu'on le lui dise, qu'on soit dans une relation et pas dans quelque chose qu'on subit simplement. Et contrairement à Jacques et Jean, très peu de temps avant, qui demandent quelque chose de totalement égoïste, qui le permettra d'avoir un pouvoir et une place d'honneur, Bartimée ne fait demander que ce dont il a besoin. Jésus aime entendre ce qui touche nos cœurs. Jésus aime entendre ce qui touche nos cœurs, nos besoins réels, parce qu'il désire y répondre. Jésus nous pose encore aujourd'hui cette question. Que veux-tu que je fasse ? Donc Jésus aime entendre ce qui touche nos cœurs, nos besoins réels, car il désire y répondre. Et Jésus nous pose aujourd'hui encore cette question. Que veux-tu que je fasse? Si Jésus venait à côté de toi, là, puis disait, que veux-tu que je fasse? Que répondriez-vous? Alors, si vous avez un petit bout de papier et puis un crayon, écrivez-le. Sinon, vous pouvez l'avoir dans la tête. Que veux-tu que je fasse? Alors, vous avez pu écrire? Vous avez pu réfléchir? Votre demande ressemble-t-elle à celle de Jacques ou Jean ou de Bartimée? Troisième étape de Jésus. Jésus annonce la bonne nouvelle de la guérison du salut à Bartimée. Jésus est un communicateur parce qu'il désire une relation avec Bartimée. Et il indique aussi le moyen par lequel il guérit. Vous savez par quel moyen il guérit Bartimée ? Par la parole. Par la parole ? Jésus dit et la chose s'accomplit. C'est ce qui est dans ce texte. Jésus dit et la chose s'accomplit. Cela démontre qu'il est Dieu parce que seul Dieu peut faire des choses pareilles. Il le dit et cela s'accomplit. Et Jésus commence par dire à Bartimée, « Va !» Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Il n'a pas d'abord dit « T'es guéri là ». D'abord, il a dit « Va !» Bartimée, comme j'ai dit, c'est pas un spectateur, c'est un acteur. Il est demandé à agir comme s'il avait déjà reçu ce qu'il avait demandé. « Vas-y maintenant !» Et Jésus souligne ensuite la foi de Bartimée. Hein, « Va, ta foi t'a sauvé hein. !» Ensuite, la foi de Bartimée, cette foi n'est pas simplement de la crédulité. C'est une confiance placée en Jésus sans aucune arrière-pensée. C'est ça la foi de Bartimée. La foi est le moyen de recevoir le salut. Alors c'est la question qu'on a tous ici. Est-ce que avons-nous cette même foi? Une foi confiante, sans arrière-pensée. Et ensuite, il dit à Bartimée, « Va, ta foi t'a sauzo ». Oui, bon, voilà, c'est ce qui est écrit dans l'original. Pourquoi j'utilise ce terme-là? Parce qu'il peut signifier guérir et sauver, les deux choses. C'est pour ça que dans certaines Bibles, il a dit « Va, ta foi t'a guéri » ou dans d'autres Bibles, c'est écrit « Va, ta foi t'a sauvé ». Ben, les deux traduisent juste parce que ce terme peut dire les deux choses. Hein? Et Bartimée vit les deux choses. La preuve, c'est qu'il voit et il suit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », il y a un mot qui revient souvent dans Marc, parce que Pierre, il aime ce qui est dynamique, mais pas seulement, parce qu'il y a une réalité. Donc Jésus dit à Bartimée, « Va, ta foi t'a sauvé !» Et deux semaines plus tard, Bartimée se réveille en disant, « Oh, je vois mieux !» Mais non, aussitôt, Jésus l'a dit, il est guéri. On n'attend pas 15 ans, ou 15 jours, ou 15 minutes, ou 15 secondes. Aussitôt, il n'y a aucun délai. Jésus dit et cela est. C'est une caractéristique des miracles de Jésus, sans délai et complètement guéri. Eh bien, quand Jésus vous dit, tu es pardonné, c'est sans délai et complet. C'est vraiment important de le saisir, ça. Donc en fait, Bartimée, comme on l'a vu, il vit la guérison et le salut en même temps. Dès qu'il voit, il suit Jésus. Va, c'est intéressant le va. On a l'impression que c'est va ailleurs. Non, va, bouge. Ne reste pas dans ta situation. Ta foi t'a sauvé. C'est ainsi que Jésus agit envers celui qui demande à être purifié avec foi. Le cœur est plus blanc que neige dès que Jésus dit « Sois pur !» C'est fait. C'est une autre prédication sur qu'est-ce que c'est que la grâce, en fait. C'est juste extraordinaire. Parce qu'il a payé le prix pour cette purification. Donc la question que j'aimerais vous laisser à chacun, peux-tu témoigner que Jésus t'a déjà dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Si tu peux témoigner de ça. Oui, il me l'a dit. Je le vis. En conclusion, Bartimée veut rencontrer Jésus car il l'estime dans son cœur. Dans un sens, on peut dire que Bartimée le voit déjà dans son cœur. Il ne l'a jamais vu de ses yeux physiques, mais il le connaît déjà. Il en a entendu parler. Il croit ce qu'on a dit de lui. Nous n'avons jamais vu physiquement Jésus. Et pourtant, nous pouvons vivre ce que Pierre, qui dicte le journal de Marc, va dire plus tard dans une de ses lettres. On a entendu le texte tout à l'heure, je vous le relis dans 1 Pierre 1, 8 et 9, qui nous dit ceci. « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » C'est ce que nous vivons en fait. « Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » C'est un peu le résumé de ce qui est de cette histoire. Alors par contre, Bartimée, lui, l'a vu Jésus. Nous le verrons aussi. Et en attendant, vous l'aimez sans l'avoir vu. Car les yeux du cœur qui nous permettent de saisir qui est Jésus sont ouverts. Et nous nous réjouissons de son retour visible et en gloire, évidemment. Les yeux de ton cœur sont-ils ouverts? Et si les yeux de notre cœur sont déjà ouverts, remplis de la joie du salut qui voit, or n'hésitons pas à aller chercher ce que Jésus dit d'appeler, qu'il fait appeler. Quelqu'un qui s'intéresse à Jésus-Christ autour de nous, allons, prenons le temps pour ouvrir la parole et le conduire dans l'évangile. Si jamais quelqu'un s'intéresse à l'évangile, il dit « Mais comment est-ce que je peux y expliquer l'évangile ?» Ben vous me dites « Allez !» On fait ensemble un petit cours de création de découverte du cœur du christianisme. Pas de problème. On le met en place. Même avec une personne. Vous venez avec, et puis on fait ça ensemble. C'est la manière d'aller vers ceux que Jésus appelle à venir vers lui. Et bien que Dieu nous guide et que nous puissions nous réjouir de voir beaucoup de Bartimée venir à Christ. Nous allons prier pour terminer. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants d'avoir ta parole qui est magnifique, qui est dynamique, qui est belle, qui nous montre là un récit qui est rempli de joie de voir un homme qui vient à toi, qui est guéri, mais qui en même temps nous montre aussi une grande souffrance d'un homme qui pendant longtemps était mis de côté, était mendiant, qui même lorsqu'il va aller vers Jésus est repoussé. Seigneur, c'est tellement beau de voir que ça ne s'arrête pas là, que tu l'entends. Que tu lui dis de venir, que tu lui demandes ce qu'il veut et que même tu le guéris et tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, nous n'entendons pas, nous, les cris qui viennent vers toi. Les disciples n'ont sûrement même pas entendu, Bartimée. Mais toi, tu entends. J'aimerais te prier de nous donner cette grâce d'être attentif. Que lorsque quelqu'un autour de nous manifeste son désir de te connaître, que cela nous réveille et qu'en fait c'est toi qui es en train de nous dire « Mais va l'appeler !» Amène-le vers moi. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de saisir cela. Et si nous ne pouvons pas dire que Jésus nous a dit « Va, ta foi t'a sauvé », oh, je te prie, Seigneur, que ceux qui sont ici ce matin viennent vers toi, qu'il leur dira « Que veux-tu que je fasse ?» et que ce soit, Seigneur, une demande qui vienne du fond du cœur, étant conscient de sa situation, sachant que toi, tu peux sauver aujourd'hui encore, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.